Serge Wabian pour ce Radio Barque numéro 5, deuxième partie, directeur de l'Office de tourisme Côte du Midi à Narbonne, du Grand Narbonne. Alors justement, Côte du Midi, c'était pas inné, c'est un nom que vous avez créé, je ne sais pas, trouvé en tout cas, pour l'attribuer à cet office. Dites-nous comment et pourquoi.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que quand les touristes venaient passer des vacances chez nous, ils ne connaissaient pas vraiment le nom du territoire. Ils disaient, on a été à Narbonne, on a été à Saint-Pierre ou à Leucate, mais il n'y avait pas de nom de territoire. Et donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un nom du territoire, mais ce n'est pas à l'Office du tourisme de le trouver, ce n'est pas forcément non plus aux élus, il faut que ce soit les habitants qui le choisissent. Et donc en fait, on leur a fait 4 propositions à l'époque, et on leur a dit, voilà, vous allez voter et vous allez choisir vous-même le nom de votre territoire, en fait. Côte du Midi, c'est pas forcément une marque, c'est vraiment un nom de territoire. Et donc, ils ont choisi, on a fait voter 22 000 personnes, donc c'est vraiment énorme, pendant quasiment 6 mois.
Et voter par Internet?
Exactement, par Internet. On s'est déplacé, on est allé les voir, on a fait voter les touristes et bien sûr les habitants. Et à la fin, en fait, c'est Côte du Midi, qui arrivait à plus de 42% en fait des suffrages, qui a été sélectionné. Et donc le territoire s'appelant Côte du Midi, on s'est dit tout naturellement, il faut que l'Office du tourisme s'appelle aussi Côte du Midi, et donc on a changé effectivement les statuts de l'Office pour devenir l'Office du tourisme officiel de la Côte du Midi.
Voilà. Et alors, je reviens un petit peu sur ces ambassadeurs. Alors, vous l'avez expliqué, Serge Wabian, c'est des gens qui finalement guident et emmènent des gens sur les sites à visiter. Vous les formez régulièrement et vous entretenez un certain lien, en quelque sorte.
Exactement, en fait. C'est une communauté. Grâce aux applications et au digital, on peut en fait les contacter souvent. Et par exemple, on les invite actuellement une fois par mois à faire une visite gratuite. Alors, c'est des visites quelquefois de Narbonne ou d'autres endroits, justement pour qu'ils soient entre eux, pour qu'ils aient la possibilité de se rencontrer, pour qu'ils soient mieux formés et pour que, bien sûr, par rapport aux gens qu'ils accueillent, ils soient encore plus performants. On leur fait aussi des petits jeux concours quelquefois pour leur faire gagner, on fait des places pour aller par exemple à l'aréna et des choses comme ça. Voilà, pour qu'en fait ils se sentent appartenir à la communauté narbonnaise. Et je pense que c'est important. Pourquoi ? Parce que on a vraiment une chance, et je le dis pas parce que vos éditeurs sont narbonnais, mais parce que c'est la vérité, quand on fait des études par rapport à l'accueil, on se rend compte que ce qui ressort beaucoup, en fait, c'est que les touristes trouvent que les habitants de la Côte du Midi sont très, très, très conviviaux et accueillants.
Et ça, c'est d'après vous, c'est naturel ou c'est culturel à cause de cette communauté?
Je pense que c'est vraiment naturel. Je pense que les Narbonnais sont des gens accueillants. Ils se rendent quelquefois pas vraiment compte, mais on le voit, les touristes nous disent, les gens sont souriants dans les restaurants, dans les hébergeurs. On a l'impression que les gens sont contents, en fait, d'accueillir les touristes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que comme je vous le disais, comme les touristes veulent de plus en plus rencontrer des habitants, justement, il faut que les habitants aient des choses à dire et envie de les accueillir. Et ça, c'est une grande force qu'on a aujourd'hui sur le territoire.
Est-ce que vous avez des anecdotes marquantes après 2 années de pratique de cette ambassade?
Mais tout à fait. On a des gens, par exemple, on s'est rendu compte, parce qu'on arrive à savoir, grâce à l'application, où vont nos ambassadeurs. On s'est rendu compte qu'il y a des gens, par exemple, qui ont été plus d'une dizaine de fois à la réserve africaine de Sigean. Parce que justement, comme c'est gratuit, ils y emmènent leur famille, leurs petits-enfants ou leurs amis de manière beaucoup plus régulière. Ça devenait pratiquement des guides, en fait, de la réserve africaine. Et donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça montre que justement, les gens circulent sur le territoire. Non seulement ça crée de l'économie, et nous, on le dit toujours aux professionnels, il faut qu'on soit utile aux professionnels. Il faut qu'on leur amène de la valeur ajoutée et des recettes. Et donc, ces ambassadeurs, justement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont circuler. Ils vont aller consommer et puis ils vont en parler. Ils vont dire, j'ai été à tel endroit, c'est super. Et vous savez, on dit toujours, le bouche-oreille, c'est la meilleure manière, effectivement, de valoriser un territoire. On peut dépenser beaucoup d'argent en promotion et en communication, et nous, on le fait, c'est important. Ça ne remplacera jamais, effectivement, les conseils des uns et des autres.
Oui, alors vive les ambassadeurs.
Exactement, vive les ambassadeurs. Il ne faut pas hésiter à demander sa carte qui est gratuite.
Alors, aujourd'hui, le tourisme, on l'a évoqué un petit peu, Serge Wabian, les exigences, les demandes ont beaucoup changé. D'abord, les origines géographiques, là, pour Narbonne, d'où viennent la plupart des touristes?
Alors, quand on regarde un petit peu le classement, aujourd'hui, au niveau des Français, c'est vraiment effectivement l'Île-de-France qui est importante pour nous. Et bien sûr, le bassin toulousain et le bassin lyonnais. On a de plus en plus de Bordelais et de Marseillais qui viennent. Parce qu'à Marseille, quelquefois, les gens se trouvent un peu engoncés sur les plages. Il y avait beaucoup de monde. Et bien, là aussi, chez nous, quand ils arrivent, ils vous disent « Mais en fait, il n'y a personne parce que c'est des grandes plages où en fait, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, tant mieux. » Après, au niveau des étrangers, on a les Allemands qui sont en premier. Et maintenant, on a les Espagnols en deuxième. On a une très forte communauté espagnole, principalement catalane, qui vient. Alors, pas forcément sur le littoral parce qu'ils l'ont déjà chez eux, mais qui vient à Narbonne. se promener, parce que Narbonne est une ville très intéressante pour les touristes. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a un patrimoine architectural et culturel qui est incroyable, parce que c'est une ville où on peut se promener en toute sécurité, c'est important, avec une zone piétonne aussi qui est bien développée. Et donc, les Espagnols adorent venir à Narbonne. Alors, ils viennent un peu tout le temps, mais aussi beaucoup, en fait, au mois de décembre. Là, on se prépare justement parce que l'Office du tourisme, cette année, va avoir un petit chalet au marché de Noël pour justement mieux conseiller les touristes. Et donc, les Espagnols sont une clientèle, effectivement, aujourd'hui, qui monte en puissance. Après, on a bien sûr tout ce qui est Hollandais, les Suisses, les Belges et puis les Scandinaves.
Oui. Et alors, ces Espagnols, bon, essentiellement, on peut le supposer de la région de Barcelone qui est très, très peuplée. Est-ce que ce sont un peu les touristes de l'arrière-saison ou ils viennent à tout moment ?
Alors, ils viennent plutôt effectivement en arrière-saison et tant mieux pour nous, parce que c'est très bien. J'allais dire, nous, on a de la place surtout effectivement en dehors de l'été, donc c'est tant mieux. Il n'y a pas que des Barcelonais, parce que maintenant, avec les nouvelles lignes de transport ferroviaire,
oui,
avec la
Renfe. C'est vrai que Madrid est relié.
Exactement. Ils viennent maintenant de Madrid, donc
c'est
une bonne chose.
Jusqu'à Séville, je crois.
Tout à fait, jusqu'à Séville. Et alors, justement, en fait, là, par exemple, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, sur Narbonne, 12% de la fréquentation annuelle, par exemple, de Narbonne, c'est au mois de décembre. Parce que les Espagnols viennent au mois de décembre profiter. Alors c'est vrai que Narbonne, c'est une ville magique, hein, à Noël, avec les féeries, avec toutes les décorations, avec les marchés de Noël. Et donc ils viennent passer une semaine chez nous, plusieurs jours chez nous, pour profiter en fait de ce moment particulier.
Ah oui, voilà. Bon, ça c'est peut-être relativement nouveau dans.
Tout à fait.
Dans le fonctionnement.
Complètement. En fait, on a vraiment vu cette clientèle arriver à des moments particuliers et au mois de décembre, parce que, je vous dis, parce que il faut leur proposer quelque chose. Et quand vous avez comme ça des événements très particuliers, ce qu'ils n'ont pas chez eux non plus, et ben en fait, ils viennent avec plaisir chez nous. Et donc, c'est encore une fois, on va s'adapter avec nos conseillers en séjour pour leur faire un programme spécifique. Moi, tous les gens qui travaillent dans les offices touristes au mois de décembre parlent couramment espagnol, pour qu'on les accueille le mieux possible.
Oui, ben on comprend pourquoi. Alors, le tourisme, pendant très très longtemps, dans les années 50, 60, 70, c'était le tout balnéaire, on venait sur les côtes, on y restait un certain temps, puis on repartait chez soi en veillant à être bien bronzé. Bon, apparemment, les choses, même s'il y a des beaux restes, parce que l'aménagement du littoral est toujours là, ça serait un gros problème d'en parler peut-être, mais aujourd'hui, quelles sont les demandes de nouvelles, si je puis dire, des touristes ? Vous l'avez un petit peu évoqué, on veut rentrer chez soi un peu moins bête, avoir appris des choses. Quelles activités essentielles ? C'est plus du tout la plage.
Hein. Non, c'est sûr que alors la plage, on est très content de la voir, et la mer aussi, parce que c'est un élément important, et le beau temps. Et puis 80% aujourd'hui de l'hébergement est encore sur le littoral, mais c'est sûr que ça a changé. Aujourd'hui, les touristes, ils veulent plus coucher sur un transat pendant une semaine sans rien faire, ça c'est complètement terminé. Ils veulent vivre des expériences, donc c'est à nous de leur proposer plein de choses à faire. Alors bien sûr, ça concerne tout ce qui est le sport, les activités, mais pas que. Ils veulent déguster du vin dans le domaine viticole, ils veulent quelquefois rencontrer des producteurs qui font des produits agricoles locaux, ils veulent bien sûr voir toute la richesse culturelle et patrimoniale, par exemple, de Narbonne. Donc tous les petits villages aussi viticoles qui sont autour de Narbonne sont des endroits importants. Et puis on a le Cala Numidi, ce qui est une grande chance pour nous aussi, parce que le Cala Numidi reste un élément très important, on peut faire du bateau et faire des choses très intéressantes. Avec tout ce côté environnemental, qui aussi est pour nous une vraie richesse, hein, le parc naturel régional de la Narbonnaise. On est peu de territoire à avoir un parc naturel régional, beaucoup de zones préservées avec tous ces étangs. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui, maintenant, aujourd'hui, est un vrai atout. Contrairement peut-être à d'autres départements comme l'Hérault et les PO, qui ont une image comme ça de destination balnéaire un peu beaucoup plus urbanisée avec ces grosses stations comme par exemple le Cap d'Agde. Ben nous justement, on est resté en fait un territoire peu urbanisé.
Semi-rural peut-être.
Exactement, hein. Un peu la mer à la campagne, moi j'ai tendance à dire.
Et alors à propos de vignes justement, c'est intéressant parce que bon, les gens vont déguster, etc., rencontrer des viticulteurs. Mais je vois par exemple la station, notre station, Grand Sud FM, tous les week-ends annonce le vigneron ou les vignerons de Garde. Ça, c'est assez curieux et intéressant comme idée.
Oui, tout à fait. Ben, c'est parti du principe que les gens ne savaient pas forcément le dimanche où est-ce qu'ils pouvaient aller déguster du vin et trouver du vin. Et donc, on a maintenant fait un système en fait, de roulement avec tous les vignerons en fait, de la Côte du Midi pour que chaque dimanche, les touristes puissent trouver des vignerons qui sont au vert et qui vont pouvoir effectivement les recevoir et leur faire découvrir toutes les différentes appellations. On a la chance d'avoir trois grosses appellations, la, clap.
Mais là encore, il a fallu convaincre des gens de sacrifier leur dimanche, en quelque sorte.
Tout à fait. Alors, quelquefois, c'est juste un dimanche tous les cinq semaines, ou voilà. C'est pas toujours les mêmes, au contraire, le dimanche. Mais c'est quelque chose qui a tellement bien marché qu'on est en train de réfléchir à le mettre en place par rapport au restaurant, par exemple, pour créer aussi un système de restaurant de garde. Parce qu'on se rend compte que quelquefois, le lundi ou le dimanche, c'est un peu compliqué de trouver des restaurants ouverts. On va faire le même système, c'est proposer aux professionnels, en alternance, de jouer le jeu et d'ouvrir, parce que si on veut développer l'arrière-saison, c'est ce que vous disiez, c'est très important pour nous, hein. On est souvent complet en juillet-août, mais pas en arrière-saison. Si on veut développer le printemps, l'automne et l'hiver, il faut qu'il y ait des choses à faire. Mmh. Et pour qu'il y ait des choses à faire, il faut que tout soit ouvert.
Mmh. Et alors, parmi les choses à faire, je dirais pas que c'est totalement nouveau, mais ce qu'on appelle la glisse. Bon, je vois encore, même chose, Grand Sud FM annonce tous les week-ends en été, la glisse, c'est-à-dire les endroits où on peut faire un certain nombre d'activités. Quelle est la part aujourd'hui de ces sports-là ?
Il y a une grosse demande, c'est vraiment en train de changer. On a toujours la randonnée pédestre et le VTT qui est important, ça c'est clair, et qui est très demandé. Mais aujourd'hui, tout ce qui est plaisance et nautisme, c'est quelque chose qui monte énormément en puissance. On a des touristes qui ont envie de faire des choses, comme je vous disais, qui ont envie de faire des activités. Il faut qu'on leur propose ces activités. Et tout ce qui est le nautisme, la plaisance, la glisse en particulier, est vraiment quelque chose avec des fortes demandes. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des pratiques qui ont changé. Avant, quand on faisait de la planche à voile, du kitesurf, on passait beaucoup de temps dans l'eau, il y avait du vent, il faisait un peu froid, c'était pas très marrant. Maintenant, avec toutes ces nouvelles technologies, comme ce qu'on appelle le foil et le wing, on arrive quelquefois maintenant à faire, à s'amuser beaucoup plus rapidement, en une demi-journée, en une journée, on peut déjà vraiment s'éclater en fait en faisant ce type d'activité, et donc ça change. Donc nous aujourd'hui, on est en train justement de s'organiser avec les professionnels pour développer ce type d'activité, et pour proposer à nos touristes de faire le maximum de choses et d'avoir des souvenirs, parce que ce qui est très important, c'est ça. C'est quand ils rentrent chez eux, il faut qu'ils puissent dire à leurs amis, mais en fait, on a vécu plein de choses en une semaine, on a vécu plein d'expériences, on s'est pris en photo, et donc tout ça, on va pouvoir le raconter sur les réseaux sociaux et donner envie aux autres de venir nous voir.
Ah oui, donc aller dans la Côte du Midi, c'est rentrer et pouvoir dire, je raconte mes vacances.
Exactement, je raconte mes vacances, et le gros avantage qu'on a, la chance qu'on a sur ce territoire, c'est que sur un territoire qui est quand même limité, on a effectivement le littoral, le canal du Midi, le patrimoine culturel de Narbonne, la viticulture. Donc, on a beaucoup de choses sur un petit territoire.
On marque, Serge Wabian, une seconde pause. On se retrouve dans une troisième partie. On vous demandera un petit peu plus ce que vous pensez de ceci, de cela.